Salut les smarts, salut les marques, bienvenue sur le supplément SmackDown de Catch Up, votre podcast hebdomadaire officiel des Cahiers du Catch qui résume l'actualité du show bleu SmackDown. Et nous allons parler aujourd'hui du show du 4 octobre 2016 et je suis pour ce faire accompagné de mon indéboulonnable binôme, Yerem.
Salut Giscal, salut à tous.
Voilà, comme vous l'avez compris, je présente exceptionnellement aujourd'hui et nous allons commencer cette émission avec un petit récap de ce dont vous allez avoir le droit ce soir. Donc, dans cette émission, au menu, nous avons eu une promo sur le Triple Threat pour le WWE World Title, un fil rouge cette semaine avec rôle inversé, comme vous pourrez le voir, une petite bisbille Teddy Longuesque entre les femmes, un documentaire exceptionnel sur la carrière de Dolph Ziggler et une rivalité naissante, vous verrez, qui s'est concrétisée dans le ring. Écoute, on commence tout de suite avec ce show donc, qui se déroulait à San Diego en Californie et qui s'ouvre, une fois n'est pas coutume, sur Nouvelle Ère Oblige, un match et pas une promo. L'autorité, représentée par Daniel Bryan, n'a pas ouvert cette émission. C'est un rematch de Backlash, Kane contre Bray Wyatt, donc une revanche d'un match qui avait vu gagner Kane sur distraction à Backlash il y a maintenant 3 semaines. Donc les deux hommes qui se mettent sur la tronche dès la cloche sonnée avec un Bray Wyatt super agressif qui fond sur Kane et qui lui met d'entrée de jeu un bon paquet de patates qui fout Kane au sol. Kane néanmoins arrive à s'en sortir avec un brise-mâchoire, mais le comeback de Kane est assez vite coupé par Bray Wyatt qui enchaîne quelques power moves, qui tente sa running senton, donc son fameux move où il s'écrase sur le dos sur son adversaire. Senton esquivé par Kane qui se relève, quelques clotheslines, un sidewalk slam. Il tente et réussit d'ailleurs d'enchaîner avec son DDT et tente ensuite de placer son chokeslam. C'est à ce moment-là que Wyatt retourne encore une nouvelle fois la vapeur, contre avec son uranage. Il place enfin sa senton et alors qu'on pense l'avantage définitif, une musique un peu bizarre retentit et là qui est-ce qu'on voit apparaître sur le titantron? C'est Randy Orton, la tête en bas, telle une chauve-souris, là, et donc image inversée qui apparaît et qui du coup déconcentre Bray Wyatt et commence une promo mimant un petit peu son rival. Donc il lui explique que lui aussi il peut voir le monde upside down, à l'envers, comme son rival Bray Wyatt, mais que par contre il comptait bien remettre les choses à l'endroit, right side up, à nos merci. Et pour ce faire, ça passera par une victoire sur lui dimanche. Donc, ce sur quoi d'ailleurs l'image se remet dans le bon sens. Donc voilà, Randy Orton qui dit que lui aussi peut jouer au Mind Games, le terrain de prédilection de Bray Wyatt. Et d'ailleurs, il en profite pour faire ce qui s'était passé la semaine dernière, mais dans l'autre sens, à savoir il défie Bray Wyatt de venir le retrouver en coulisses. Faire un petit peu le jeu de piste, mais à l'envers, qu'on avait pu voir la semaine dernière. Ce sur quoi l'écran se coupe, sauf que Kane, entre-temps, s'est remis de ses émotions et de sa senton, là. Il se relève, chokeslam, il tente le chokeslam, et Bray Wyatt contre encore une fois, sauf que cette fois, au lieu de continuer le match, il s'échappe et il semble complètement omnubilé par Randy Orton et donc part vers les vestiaires et perd sur des comptes à l'extérieur, ce qui nous donne au bout de 4 minutes 30 une victoire de Kane qui est donc maintenant 2-0 contre Bray Wyatt. C'est une des nouvelles de la semaine. Donc voilà, écoute, bon Yerem, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ce fil rouge qui s'annonce?
Alors effectivement, tu fais bien de le rappeler, parce que j'avais complètement oublié cette histoire de rivalité, enfin de 2-0 là pour Kane. Ça a commencé un petit peu à dater. Effectivement, là ce soir, on avait vraiment un côté un peu miroir par rapport à la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est un duel de Game Master, de maître du jeu. Donc cette fois-ci, c'est Randy Orton qui prend les commandes. Donc voilà, c'est bon, il faut être dans le trip, hein, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça. On est client ou pas, hein, mais bon.
Bon, au moins il joue le jeu et c'est plutôt original, on va dire. Après, voilà, sur le match, effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est cette histoire de Ken, hein, qui remporte une fois de plus la mise. Bray Wyatt, voilà, il serait temps quand même qu'il gagne du match, parce que bah finalement, on a bien compris, hein, les mind games, tout ça, c'est son truc. Mais bon, pour l'instant, ok, il a pas, ils sont, en fait, il s'en va, il continue même pas le match, il en a
Non, il
rien à
s'en fiche.
faire. Donc, ok, pourquoi pas, ça colle plutôt bien avec le personnage, mais bah, cette rivalité, à un moment donné, elle va falloir se solder, en tout cas, continuer sur les rings. Et c'est là où on est peut-être un petit peu moins rassuré. Bon, Bray Wyatt, on sait qu'il peut sortir des bons matchs, mais après, il faut les gagner, donc.
Ouais, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, le public va finir, si ce n'est pas déjà le cas pour certains, parce qu'on sait qu'il a ses détracteurs, hein, mais à se désintéresser finalement de ce qui se passe, puisque de toute façon on sait que derrière il est quasi inoffensif
C'est ça,
dans le
hein.
ring, quoi. C'est un peu ça le problème. Et puis c'est ce qu'on se disait l'autre fois à Backlash, c'est que au final on est encore dans une situation où on aurait très bien pu arriver au exactement même résultat en le faisant gagner contre Kane. Donc c'est quand même très bizarre de donner deux fois de suite une victoire à Kane qui sert pas à grand-chose. Donc bon, voilà, un petit peu déçu du résultat. Après, bon bah voilà, on aura l'occasion de reparler du fil rouge et du trip Bray Wyatt Randy Orton un peu plus tard dans l'émission. Et du coup, bah on enchaîne avec d'ailleurs une des premières petites vignettes de ce fil rouge avec, on le verra à plusieurs reprises, mais donc voilà Wyatt qui, dans la suite de son match, se balade dans les couloirs sombres de l'arène de San Diego. Couloir voilà, un peu rempli de fumée aux éclairages un peu bleutés, sombres, voilà. C'est
Voilà.
un peu glauque comme
On
stade,
en est dans
manifestement.
les ouais, c'est on est dans les sous-sols d'un casino, alors bon,
Ouais,
on va
donc
pas y
bon,
perdre que notre argent, à mon avis.
c'est ça exactement. On n'a pas forcément très très envie d'aller y jouer dans ce casino-là, mais bon. Donc du coup, bah voilà, il se balade dans les couloirs, il cherche Randy Orton. Ça fait écho à la semaine dernière. On avance et on avance avec quoi? On avance avec les femmes qui donc ce soir avaient un match à la carte et ce match c'était Alexa Bliss, donc number one contender pour le titre contre Nikki Bella et Carmella était au commentaire, donc Carmella qui est en rivalité violente avec la dernière nommée Nikki Bella. Un petit match qui commence sur fond de trash talk, hein, Alexa Bliss qui insulte, qui agresse un peu verbalement Nikki Bella pour commencer, ce qui fait que bon bah forcément ça ne plaît pas à la femme de John Cena enfin, la femme non, la petite amie, hein, parce qu'il John Cena n'est pas pour le
Alors,
mariage,
jusqu'à
justement.
le... Je crois que tu étais incollable sur John
Non, non,
Cena.
mais justement, je me corrige, mais je sais que mon héros n'est manifestement pas très porté sur le mariage. Donc
Tu
bon,
as
du coup,
encore
tu
ta chance, peut-être, alors.
vois. Ouais, je sais pas. Mais donc, du coup, bon, voilà, elles se mettent un peu sur la tronche, à toi, à moi, des coups dans la tête. Nikki Bella qui prend l'avantage sur un dropkick qui envoie du coup par la même occasion Alexa Bliss à l'extérieur du ring. Donc l'action s'amène devant la table des commentateurs et du coup surtout devant Carmella qui en profite pour se lever, enlever son casque et dire ouais, et qui commence à trash-talker Nikki Bella. D'ailleurs, je profite de ça pour faire un petit aparté, puisque au commentaire, pendant le bref échange de coups qu'il y a eu, Carmella a enfin, on l'attendait, donné la justification au commentaire avec les commentateurs de pourquoi est-ce qu'elle était énervée contre Nikki Bella. Donc maintenant, on sait.
Et donc pourquoi?
Et donc pourquoi? Eh bien, c'était parce que, si vous vous souvenez bien, donc le retour de Nikki Bella tonitruant à SummerSlam qui avait eu lieu à Brooklyn, au Barclays Center. Et Brooklyn, ouais, il s'avère que c'est la ville d'origine de Carmella qui n'avait pas du tout apprécié de voir que le spotlight avait été complètement volé par cette opportuniste Nikki Bella qui était revenue donc en grande pompe et qui avait privé Carmella de sorte de, voilà, de la fête quoi chez elle. Donc elle n'avait pas aimé et depuis ce jour, bah, c'est vrai qu'elle l'agresse un petit peu sans raison. Mais bon voilà, maintenant on sait ce qui a causé l'ire de la princesse de Staten Island.
On l'a
Donc voilà,
voulu, on l'a eu.
on l'a
Cette
voulu, on l'a
explication.
eu. En tout cas maintenant, mieux vaut tard que jamais, on sait pourquoi. Et toujours est-il que voilà, Carmela trash talk Nikki, ben elle décidément ce soir, elle a décidé de pas se laisser trash talker la face. Donc elle profite du corps inerte d'Alexa Bliss qu'elle avait envoyé valser hors du ring pour justement la réenvoyer valser, mais cette fois dans Carmela. Donc les deux femmes sont KO. Elle remonte Alexa Bliss dans le ring pour continuer le match. Sauf que comme vous pouvez vous en douter, ça ne continuera pas longtemps puisque Nikki Bella tente d'en finir avec Alexa Bliss avec son torture rack, mais c'est à ce moment-là que Carmella monte dans le ring, intervient, disqualification. Disqualification donc qui forcément donne lieu à un 2 contre 1, un beatdown des méchantes pour faire bonne mesure sur Nikki Bella. Dans ces cas-là, généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a un sauvetage héroïque, et ce sauvetage héroïque, c'est Becky Lynch.
Le
Sa musique
chevalier roux.
Retentit, le chevalier roux exactement, qui fonce à grandes enjambées vers le ring et sauve donc sa comparse Nikki Bella. Coupure pub. Et quand on revient, que se passe-t-il? Manifestement, Teddy Long a dû faire une petite incursion dans le stade pendant la coupure pub, puisque nous revenons en plein dans un tag team match playa. Donc bah, les gentils hein, Becky Lynch et Nikki Bella contre Carmella et Alexa Bliss dans un match d'environ 4 minutes plutôt fun. Bon alors donc du coup on reprend un peu là où on était avec Alexa Bliss et Nikki Bella bah, du coup, qui reprennent leurs affrontements. Carmella qui immédiatement distrait Nikki et permet à Alexa de prendre le contrôle. S'ensuit bah, du coup des séries de tags. Carmella rentre, place son Bronco Buster dans le coin. Seulement deux. Alexa Bliss et Carmella continuent d'enchaîner les tags. Nikki Bella finit par se remettre un peu dans le match et tenter un comeback. Carmella, justement, elle profite d'un Bronco Buster, d'un deuxième Bronco Buster raté qu'elle esquive pour aller taguer Lynch. Et là, Becky Lynch, bon, bah, c'est le hot tag, Straight Fire, de Becky Lynch qui arrive tout feu tout flamme, avec une paire de souplex exploders dans le coin là, sur Alexa Bliss. Carmella qui essaye de la distraire en la tirant hors du ring, mais Becky Lynch continue de faire le ménage. Ça part un peu en sucette entre les quatre dans le ring. Carmella qui place un super kick sur Becky Lynch. Mais qui est immédiatement attiré à l'extérieur par Nikki Bella et qui ensuite les deux continuent de se foutre sur la tronche, sur la rampe, jusqu'au titantron et en fait finissent par rentrer au vestiaire, ce qui ne nous laisse plus que une Becky Lynch complètement KO du super kick au milieu du ring et une Alexa Bliss qui capitalise à fond et qui vient placer son Twisted Bliss du haut de la troisième corde. Super move esthétiquement parlant, très beau finisher, j'ai bien aimé. Et qui donc bah, prend la victoire sur ce compte de 3, donc victoire de Alexa Bliss et de Carmella, au bout de bah, 4 minutes bien enlevées. Donc écoute, Irem, qu'as-tu pensé de tout ça pour dimanche?
Écoute, bon, effectivement, c'était court, mais c'était bien solide, hein, cet affrontement-là, ce tag team. Bon, évidemment, on a des rivalités croisées typiques d'un go-home show. Donc voilà, Alexa Bliss qui remporte la mise, c'est bon pour elle. D'ailleurs, c'était dans le Talking Smack, il y avait Daniel Bryan à un moment donné, on lui a demandé sur qui il allait miser entre Alexa Bliss et Becky Lynch, et ben tiens-toi bien, il a dit qu'il mettrait bien une petite pièce sur Alexa Bliss. Alors,
ouais, c'est intéressant.
Justifiant que effectivement Becky Lynch étant la championne, ben, c'est elle qui l'a chassée et que du coup, bah, t'as un peu un rapport de force. On verra, hein, à mon avis, il faut quand même. Enfin, ce sera bien quand même qu'elle continue à conserver son
ouais,
titre.
Ouais, je pense aussi. C'est
mais
son pronostic.
Voilà, ouais, c'est ça. Je pense on peut pas trop se tromper. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais toujours est-il que voilà, Alexa Bliss est vraiment en bouquet, en prétendante qui a ses chances.
Ils ont fait du bon boulot.
Ouais, vraiment qui a toutes ses chances. Et puis voilà, bon, Nikki Bella, Carmella, bon, c'est de la bagarre de bistrot, quoi. Hein. Les filles ont un peu
ouais,
trop bu.
On est dans un autre style. Ouais.
Voilà, elles ont enchaîné les mojitos, là, les shots. Et puis, ces crêpages de chinois, à qui sera la princesse de Brooklyn.
On se pétait des bouteilles sur la tête.
Mais bon, tu as dit que ouais, c'est globalement c'était quand même un booking simple et efficace pour les quatre concernés.
C'est ça, voilà, c'est du booking ABC, c'est très propre. On développe bien les deux histoires en parallèle. On sait qu'il y a aussi Naomi et Natalia derrière, bon, qui ont été ménagées parce qu'elles ne
Oui,
seront
c'est
pas au
vrai.
pay-per-view, donc c'est normal. Mais du coup, voilà, on a quand même une division féminine qui est plutôt bien travaillée, quoi. On laisse personne sur le carreau, c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, bon, je suis très d'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est bien. Les quatre ont été bien mises en valeur avec les bons résultats. C'est bien joué. On enchaîne et retour sur notre fil rouge. Bray Wyatt continue d'arpenter les couloirs sombres du casino de San Diego à la recherche d'Orton. Et d'ailleurs, bah, au détour de ses recherches, il tombe sur quoi? Sur son rocking chair qui traîne manifestement dans une petite pièce sombre et étroite. On se demande ce que ça fout là, mais Bray Wyatt, lui, ça l'inquiète pas plus, ça le fait marrer. Tu dis, tiens, mon rocking chair, je vais peut-être aller m'asseoir dessus, c'est bien ça. Et donc, bah, il s'engage dans cette petite pièce, s'assied sur son fauteuil, et forcément, ce qui devait arriver arriva. Orton surgit, referme la porte derrière en emprisonnant du coup Bray Wyatt dans ce qui s'apparente être une sorte de gros caisson de stockage, un peu une sorte de, ouais, de gros container
Oui,
rectangulaire.
c'est une pièce en
Voilà,
plus.com.
c'est ça. Donc du coup, Bray Wyatt est piégé dans cette pièce avec comme seule compagnie bah, son rocking chair et une sorte de caméscope dans le coin hein, qui fait un peu Paranormal Activity là, un caméscope infrarouge avec un balayage d'images un peu trouble pour donner une ambiance un peu pesante là. Donc voilà, il est coincé là-dedans. Orton le nargue un petit peu avant de se barrer. Bon, voilà,
Tout est mis sous surveillance hein, dans
C'est
les
ça,
bas-fonds du
même les
casino.
caissons de storage, de storage là. Bon, voilà, donc la suite au prochain, mais Bray Wyatt est piégé et s'est fait attraper par le machiavélique Randy Orton. On continue, on revient dans le ring et on revient dans le ring pour un segment plus léger, puisque Daniel Bryan est là pour donner la réplique du segment qu'il a pu avoir à Raw la veille sur bah, l'association de la WWE depuis maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais plus, avec l'association Susan G. Komen contre le cancer du sein chez les femmes. Donc bah, voilà un petit segment qui donne le sourire et qui fait plutôt chaud au cœur. Daniel Bryan qui présente donc 5 femmes survivantes ou en état qui combattent le cancer, je ne sais plus si elles étaient toutes des survivantes. C'est exactement ce qui s'est passé à Raw avec Enzo et Cass. Ils avaient prévu sous une petite bâche rose des répliques du titre de champion féminin bah, à distribuer à chacune. Voilà, pour symboliser que ce sont des championnes et qu'elles se battent. Donc voilà, un petit segment qui n'a pas été botché par Daniel Bryan, puisque la révélation des ceintures a été parfaitement exécutée d'un très très beau tirage de drap, ce qu'avait raté Enzo Haro. Donc du coup, c'était un segment sans faute
Bravo Daniel.
pour Daniel Bryan. Bravo Daniel, félicitations. On enchaîne avec un match tag team entre un match un peu random hein, parce que entre les Hype Bros et des revenants, les Vaudevillains,
Oui.
qui n'avaient plus été aperçus depuis leur défaite au premier tour du tournoi tag team il y a maintenant de ça, oh là, petit moment, c'était avant Backlash.
Avez-vous vu
Donc du
ces deux
coup
catcheurs?
Avez-vous vu ces deux catcheurs? Donc du coup, les Hype Bros et les Vaudevillains qui s'affrontent. Ça commence avec Simon Gotch et Mojo Rawley dans le ring. Bon, Mojo, il gueule, il est hype, il danse partout. Il fout des clotheslines, des coups du tomahawk sur la tête de Simon Gotch. Ryder tag et rentre dans le match. C'est à ce moment-là que font irruption The Ascension qui apparaissent sous le titantron, mais qui restent sous le titantron de manière assez surprenante. Donc
Ouais.
ils sont là pour regarder le match,
En qualité
manifestement.
d'observateur.
Voilà, en qualité d'observateur. Ils ont quand même mis toute leur peinture et leurs attirails, mais ils observent. Et donc ils regardent. Sauf que pendant ce temps-là, bah, forcément, Simon Gotch en profite pour stopper le momentum de Ryder. Et ils prennent le contrôle. Aiden English rentre dans le match, cale un petit exploder suplex sur Ryder pour un nearfall. S'ensuit une période de domination. Gotch et English alternent les tags. Ryder joue le face en péril. Pas beaucoup, beaucoup de réactions pendant ce match. Le public était assez calme. Ryder qui tente un comeback, qui arrive à taguer Mojo. Donc là, forcément, c'est la folie. Shoulder tackle, corner splash. English en prend plein la tête. Hype Rider, donc le mix entre le saut sur la troisième corde là et le, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs son move à Zack Rider, mais bon, c'est une sorte de descente de la cuisse de la troisième corde là. Et les Hype Rider l'emportent après Hype Rider, les Hype Bros l'emportent après 4 minutes de match à peu près. Voilà, écoute, est-ce que tu as des commentaires sur ce petit match pas bien méchant?
Bah alors deux commentaires. Un, le premier, ça fait plaisir de voir les vaudevillains. Moi,
Oui,
voilà, je
ils
les
sont
aime bien.
vivants.
Ils sont vivants, ils ont toujours un contrat, donc ça c'est cool. Et deux, bah non, c'est bien. On boucle le futur, on boucle voilà la low card de la scène tag team. Ça mange pas de pain, il faut le faire. Et au moins ils le font. Personne n'est oublié. Bon, ils ont pas du temps d'antenne toutes les semaines, mais voilà, on prépare la suite de la suite. De la scène tag team, donc ça c'est bien, ça fait plaisir.
C'est ça, exactement. C'est peut-être pas intéressant. Certains auront
Non,
peut-être baillé.
j'avoue que c'est pas forcément très
Certains
intéressant.
auront peut-être baillé ou fait de l'avance rapide, mais c'est pas intéressant, mais c'est important. Voilà, c'est encore une preuve que SmackDown optimise plutôt bien son roster et sait booker aussi, pas juste le présent, mais le lendemain. On enchaîne et on enchaîne sur le gros morceau de la soirée. C'était ce qu'on attendait un petit peu tous fébrilement après. La promo d'anthologie de la semaine dernière, c'est le segment de Go Home avant le pay-per-view de Miz et Ziggler. C'est la feud la plus chaude du moment à SmackDown. Et pour ce faire, pour cette dernière, peut-être ce dernier SmackDown de Dolph Ziggler, eh bien, Miz avait mis les petits plats dans les grands et nous convoque à une édition spéciale de son Miz TV. Donc le décor est planté dans le ring, les fauteuils sont là, le tapis noir est là, Miz et Maryse sont là, Miz dans un somptueux costume rouge, j'adore, il faut le souligner, et Maryse avec un somptueux décolleté plongeant, il faut le souligner aussi, c'est plus classique. Donc ils sont tous les deux là, ils nous parlent de cette émission spéciale de Miz TV, et sans plus attendre, ils invitent immédiatement leur invité du soir, pardon, qui est évidemment Dolph Ziggler, qui fait son entrée. Donc Dolph Ziggler arrive. Dolph Ziggler arrive, se prend place. Miz entreprend tout de suite voilà, de hyper un peu, de faire monter la sauce de leur title versus career match qui arrive donc ce dimanche. Et donc dit Ziggler, c'est peut-être ton dernier SmackDown ce soir, et c'est peut-être la fin de ta carrière, mais je vais faire en sorte que cette carrière ne soit pas oubliée, mon cher ami, puisque je t'ai préparé un Dolphumentary.
Une
Donc,
belle
il y a un beau jeu de mots
Oui.
entre Dolph et Documentary. Et s'ensuit une séquence vidéo, mes amis. Alors, si vous n'avez pas regardé SmackDown, bon, il y aura d'autres points forts encore en fin d'émission, mais regardez au moins ce segment, c'est fantastique. Il y a eu un travail des éditeurs vidéo à la WWE titanesque. Vraiment, c'était de très très grande qualité. Donc, on a eu vraiment une présentation documentaire avec des passages vidéo entrecoupés d'interviews de catcheurs, de fausses interviews en fait de catcheurs. Enfin, c'est des vraies interviews, mais qui ont été
Détourné.
montées, voilà, détournées un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait Rollins sur Roman Reigns. Donc, c'est des bouts d'interviews de catcheurs qui disent des choses qui paraissent comme ça de prime abord méchantes, mais complètement sorties du contexte. Et c'est très bien fait. Tout ça est entrecoupé aussi de passages de voix off. Donc, c'est la voix off de la WWE. Hein, c'est celle qui vous introduit à chaque fois dans les pay-per-view quand il vous fait And now the WWE presents.
Ah, mais c'est toi en fait, Giscal. Tu es la voix de la WWE qui nous introduit.
C'est ça exactement. Donc voilà, donc ils avaient même le Miz avait même embauché la voix off. Et donc bref, on a un grand package vidéo absolument extra donc qui s'ouvre sur la terrible défaite de Dolph histoire de planter le décor direct hein, le coup du spray dans les yeux à Backlash pour le titre intercontinental. Donc ça s'ouvre là-dessus avec le Skull Crushing Finale qui s'en était suivi. Et puis ensuite, on a des petits encarts. Now, WWE Documentary Presents, machin. Et donc là, vous avez plein de segments vidéo de la carrière de Dolph Ziggler, mais bien évidemment des pires moments de sa carrière. Et c'est là où on se rend compte que le pauvre a pas eu, en effet, il a pas eu une carrière facile. Donc ça balaye tout, hein, de ses débuts en tant que caddie de golf, gimmick, on ne peut plus casse-gueule, à son passage dans le Spirit Squad, avec voilà, cette sorte d'équipe de 5 cheerleaders tout en vert, bondissant, qui chantait et qui se faisait envoyer des sauts dessus par D-Generation X à l'époque. Et puis on a eu forcément le passage où il s'était pris des sauts de merde là pendant son faux mariage avec Edgeli. Il y a eu le match aussi où il se prend une patate de Hugh Jackman à Raw qui le fait perdre. Voilà, il s'était fait coucher par un acteur et il avait perdu un match derrière. Il y avait aussi son match contre le Kiss My Ass match contre Sheamus où Sheamus lui frotte le visage sur ses fesses toutes blanches immaculées. Là. C'est un grand moment de télévision
aussi.
Trop
de détails.
Grand moment de télévision. Enfin bref, voilà tous ces grands moments. On avait même aussi des petites interviews pour le coup réelles, hein, des passages où Booker T avait enterré Ziggler une fois en pré-show de pay-per-view aussi en disant que voilà, quand on pense Ziggler, on pense second rôle, on pense opportunité ratée. Enfin voilà, un documentaire terrible à regarder. Tu vraiment, on se dit que putain, le pauvre Ziggler, ouais, c'est vrai qu'il a peut-être pas eu la plus belle des carrières. Tout ça agrémenté, comme on l'a dit, hein, de témoignages détournés d'autres catcheurs, ce qui fait que voilà, retour dans le ring, on voit le visage de Dolph absolument déconfit alors qu'à côté Miz est tout simplement hilar et détestable. Mais bon, Ziggler ne se démonte pas. Ziggler avait dit que bah oui, écoute, c'est bien gentil Miz, mais pour 10 moments embarrassants comme ça, il y en avait toujours au moins un magique qui valait le coup.
Quel super ratio.
C'est peut-être pas forcément le meilleur ratio, mais bon voilà, il voit le positif partout, Dolph, et il dit bah voilà, il y avait toujours au moins un moment qui me poussait à continuer, qui me poussait à me battre, qui me poussait à voilà, à aller chercher toujours plus loin, et donc là il fait mention évidemment à tous ses fans, au sourire des enfants quand il rentre, quand il gagnait des matchs, à son légendaire cash-in, peut-être un des plus beaux cash-in de Money in the Bank au lendemain de WrestleMania sur Del Rio, sous une pop absolument stratosphérique. Il parle de toutes ces actions caritatives qu'il fait aussi en coulisses avec les Make-A-Wish, les choses comme ça. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font qu'il était prêt à endurer les pires sévices, les pires hontes pour continuer. Mais toujours est-il qu'il est aujourd'hui un croisement dans sa carrière et que cette situation le pousse aujourd'hui à mettre en jeu sa carrière et quelque part aussi son honneur. Et donc c'est pour ça qu'il a mis cet enjeu ultime, mais il promet de retrouver du coup toute sa dignité et de battre le Miz dimanche. Et évidemment, le Miz, lui, il le coupe, hein, il lui dit non, mais tu t'es terminé, c'est fini, tu peux dire au revoir à tous ces enfants, à toutes ces actions, des Make-A-Wish, tout ça, c'est terminé, Ziggler, je vais te battre. Et toute cette carrière oubliable sera définitivement oubliée. Mais ne t'inquiète pas, Dolph, j'ai de quoi te remonter le moral pour ce dernier SmackDown. Et donc là, on se demande ce qui se passe, il se tourne vers le Titantron, et là, la musique du Spirit Squad retentit, et nous avons Kenny et Mickey. J'aurais pas été capable de les reconnaître, hein, mais c'est Kenny et Mickey, deux anciens membres du Spirit Squad, qui arrivent, tout remonté. Bon, là s'ensuit une petite séquence un peu nostalgie où au début on pense qu'ils sont là pour faire plaisir à Dolph, hein, ils font des chants, des petites acrobaties de cheerleader, machin, patati patata, et puis petit à petit on se rend assez vite compte quand même qu'ils sont là juste pour se moquer du pauvre Dolph qui de plus en plus tire la tronche au fil du segment. Voilà, ils essayent de le faire rentrer dans leur champ, mais Dolph n'est plus trop d'humeur. Le Miz est absolument mort de rire derrière tout ça. Il se permet même une petite pique, disant que il est désolé, il aurait bien aimé en ramener plus que deux, parce qu'à la base ils étaient quatre avec Ziggler, donc cinq au total, mais il aurait bien aimé en ramener plus que deux. Mais bon, ils sont introuvables depuis qu'ils ont été envoyés bouler en OVW, donc c'est la Ohio Valley Wrestling Federation, qui était à l'époque une sorte d'antichambre un peu de la WWE, une sorte de NXT. Mais bon, largement en dessous de ce que c'est aujourd'hui, hein, et maintenant que c'est vraiment une fédé de 4e, 5e zone, hein, donc c'est un peu tombé en désuétude dans les arcanes du catch américain, donc c'est plus une façon de dire, bon écoute, ils sont partis dans un Z-show, et d'ailleurs, si tu veux, tu pourras aller les rejoindre après dimanche. C'était la pique de trop pour Ziggler. qui tente de s'en prendre aux mises. Et là, les deux petits gars du Spirit Squad lui sautent dessus. Beatdown sur Ziggler. Le public n'est pas content. Mais Ziggler arrive à s'en sortir. Super kick sur Kenny. Super kick sur Mickey.
Oh mon dieu, il a tué Kenny.
Il a tué Kenny. Le Miz tente de profiter de la distraction pour placer son skull crushing finally. Mais le Ziggler contre. Il tease un super kick, mais le Miz s'échappe et part. Donc on termine sur cette image donc d'un Ziggler, pas forcément triomphant, mais en tout cas il est debout au milieu du ring. Ça y est, le chapitre l'histoire a fini d'être racontée. La suite maintenant est la fin ce dimanche à nos merci. Qu'en as-tu pensé, Irem?
Bah écoute, nous qui nous demandions la semaine dernière ce qu'ils allaient bien pouvoir faire pour ce Gomme Show, puisque la semaine dernière, si tu te souviens bien, enfin, ils avaient vraiment sorti le grand jeu.
Ils avaient sorti le très grand jeu.
Et ça aurait pu très bien être. C'était typiquement une séquence qui aurait pu être pour un Gomme Show où voilà, arrivé au bout de la route, on met tout sur tout en jeu. Et ben là, ils ont encore réussi avec ce segment là, ce package vidéo formidable à tout point de vue, et le retour du Spirit Squad à maintenir la hype et l'intensité autour de cette rivalité, ce qui du coup va mettre une sacrée pression hein, sur les deux, va délivrer un sacré match là pour parce que là les attentes vont être énormes et
Les attentes sont au plus haut là, je pense que
donc il va falloir assurer pour la rencontre. Mais toujours est-il que peu importe l'issue, c'est là où c'est vraiment ils sont très forts, c'est peu importe l'issue, ça va être phénoménal, parce que imaginons Ziggler perd, c'est un shocking moment incroyable, parce qu'on a envie, on y croit et on n'y croit pas en même temps. Toi, même moi, je suis persuadé que c'est vraiment ce qui va se passer, et aussitôt que je me dis ça, bah je me dis mais non, c'est pas possible.
Tu te dis et si jamais,
et au contraire, si Dolph remporte,
c'est la folie,
le stade va exploser. Donc ils ont vraiment fait du super boulot pour maintenir la hype autour de cette rivalité.
Ça, exactement, c'est vraiment un modèle du genre en termes de boulot. Et puis de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est ça la clé d'un bon booking, c'est d'arriver à impliquer émotionnellement le public, quel que soit le résultat en fait. Il faut qu'on soit capable, que ce soit la défaite de Ziggler ou la victoire de Ziggler, dans les deux cas, il y aura forcément une émotion forte, parce qu'il y aura des implications fortes, et c'est pour ça que du coup, on est super impatient de voir le match, parce que quel que soit de quel côté penche la balance, ça va forcément être un grand moment. Donc c'est super quoi. Enfin franchement c'est la feu de. Je pense que j'ai pas attendu un match autant depuis très très longtemps. Et je suis persuadé qu'ils vont être au niveau. Les mecs ils sont top, ils l'ont déjà prouvé. Je pense qu'on va avoir un très très grand match de pay-per-view avec chaque near fall. Je pense va être absolument haletant et stressant. Ça va être du très grand catch je pense.
Toi, t'as dû mettre 10 partout sur le chronomètre.
Voilà, exactement. Profitons-en pour faire de la pub au gauchomètre. si vous n'avez pas encore voté, il est encore ouvert. Allez voter sur le gauchomètre des cahiers du catch, tenu par IRM. Mais c'est la première fois que je mettais 10 partout, je crois, à un match. Je suis à la fois super excité, super curieux. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est possible. Hein. Et puis, je pense que techniquement, ça va être très fort. Ils l'ont prouvé. Donc, c'est du sacré boulot. J'ai très, très hâte de voir ça dimanche. On enchaîne, on revient sur notre fil rouge et puis on revient sur notre petite caméra, notre caméscope là dans un coin de la pièce dans laquelle est coincé Bray Wyatt. Bray Wyatt il y est toujours, voilà, et il tourne autour de sa chaise, il s'y rassied, il est coincé, voilà. Pour l'instant, il se passe rien, on se dit est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, on ne sait pas. On avance et on arrive sur un nouveau match tag team, beaucoup de matchs tag team ce soir. Et c'est c'est pas un match tag team, pardon,
c'est l'erreur. Tag team. Non,
c'est ça, c'est implique des tag team, pardon. C'est un match qui oppose Jason Jordan, donc accompagné de Chad Gable, à Jey Uso, accompagné de Jimmy. Ça, j'aurais bien été incapable de vous dire lequel combattait si je n'avais pas lu le récap.
Je crois que JBL, d'ailleurs, s'est trompé, ou un des commentateurs.
Probablement. Match qui calque, qui fait vraiment écho à leurs affrontements précédents, parce que dès que la cloche sonne, Jordan qui fonce sur les Usos. Donc, il tente vraiment de prendre le dessus très vite. On sent que les American Alpha ont gros sur la patate par rapport aux Usos. Donc ils tentent de les balancer par-dessus la troisième corde, mais les Usos, enfin le donc Jimmy, non c'est Jay d'ailleurs, on s'en fout, arrive à donc à prendre le dessus en foutant un coup avec les cordes du coup à Jason Jordan et prend le contrôle, mais finalement un contrôle d'assez courte durée puisque Jason Jordan entame un comeback assez rapide et soudainement, out of nowhere, gagne sur un roll-up au bout de 1 minute 30 à tout casser. On a une victoire de Jason Jordan sur Jey Uso. Mais évidemment, ce type de victoire ne plaît pas du tout aux jumeaux samoans qui remontent dans le ring et entament un passage à tabac dans les règles, comme ils savent bien le faire en ce moment, hein, des passages à tabac bien violents, bien vicieux, avec une fois de plus sur Chad Gable, là, le spear à l'arrière du genou là, qui fait mal à voir. Et puis derrière, leur prise de soumission, le Tequila Sunrise, hein, qui est du coup cette sorte de Walls of Jericho à une jambe seulement. Tequila Sunrise qui généralement est suivi d'un big splash, mais
Arrête de répéter ce Tequila Sunrise, tu me donnes envie de cocktail.
et du coup ce big splash, le big splash n'a pas lieu puisque qui arrive? Nos champions, les champions du peuple, les champions SmackDown, Rhino et Heath Slater qui viennent pour faire le sauvetage et font place nette, les Usos se carapatent et donc Slater et Rhino qui viennent sauver les American Alpha. Donc voilà, on avait un petit match très court, mais qui faisait vraiment écho au match qu'il y avait eu à l'époque dans le tournoi tag team, hein, une victoire éclair des American Alpha qui aurait dû être suivie d'une place en finale pour le titre, pour le tournoi, mais
Eh
qui avait
oui.
tourné court sur une tentative de blessure, enfin sur une tentative réussie, hein, d'ailleurs, de blesser les Américains Alpha. Et là, on se dirigeait vers le même scénario, mais cette fois, ça a été avorté. Qu'as-tu pensé de ce petit échange très rapide au final?
C'était avorté par également après par un autre chevalier roux. Il y a beaucoup de
Ouais,
chevaliers
oui,
roux
c'est
ce
vrai, c'est
soir.
vrai. Les chevaliers sont roux à
Et
SmackDown.
ce sont les roues de secours.
Oh,
Tiens,
oh,
pas mal celle-là.
oh.
Bref, allez, Uso, un superbe heel turn. Hein. Franchement, ils ont fait vraiment de super boulot quand ils sont parfaits. Hein.
C'est
Ils
fort ce qu'ils
ont
ont fait,
pendant
ouais.
des années, là, ils ont joué les face gentils, colorés, sautillants. Et là, le heel turn est réussi à 100%. Ils sont méthodiques, vicieux. Clairement, là, c'est des sacrés prétendants pour dimanche. Donc c'est super, voilà, on profite, là on construit ce que je disais l'autre jour, là on construit le lendemain, on construit le surlendemain avec les Riders et compagnie, et là on construit le lendemain, on sent que les Ouzo auront une place là bientôt à jouer
C'est ça, exactement.
en haut de la chaîne alimentaire.
Ouais, et puis non, mais c'est ça. C'est encore une fois, c'est très rapide. Ça, bon, ça mange pas trop de temps dans l'émission, mais c'est des choses, des interactions qui sont utiles parce que voilà, on se doute que les Américains Alpha et les Usos, c'est probablement le prochain gros programme et le vrai programme sérieux pour le titre tag team quand la Belle et la Bête auront perdu leur ceinture.
Il sera
Et
minuit, la
il sera
ceinture
minuit.
redeviendra citrouille.
Voilà, est-ce que ce sera à nos merci? On ne sait pas, mais bon, voilà, en tout cas, on se doute un petit peu que la prochaine feud sérieuse, ce sera probablement celle qu'on a vue là. Et donc, voilà, c'est ce genre de petites interactions disséminées entre les SmackDown qui font que la rivalité sera encore plus belle une fois qu'elle interviendra, donc c'est bien joué. Donc c'est du bon boulot tout ça, on va revenir encore une fois n'est pas coutume sur notre fil rouge notre fil rouge qui prend des tournures un petit peu inquiétantes puisque on retrouve Bray Wyatt qui on sent un petit peu à l'instar des fous un petit peu qui sont emprisonnés dans leurs cellules dans ce huis clos un peu étouffant. On sent que la folie le gagne un peu puisqu'il se met Il se met à chanter tout seul sur sa chaise. Il commence à sombrer petit à petit, on a l'impression. Et puis alors là, d'un seul coup, il y a une scène vraiment bizarre, puisqu'on le voit s'adresser manifestement à quelqu'un hors champ de caméra, parce que je vous rappelle que c'est une sorte de caméscope qui filme d'un coin de la pièce, là. On le voit s'adresser à quelqu'un hors champ de caméra, puis d'un seul coup, on l'entend murmurer Sister Abigail, je suis prêt à rentrer chez moi, avec ce ton absolument dément, là. Et puis il tend la main à l'extérieur du champ, comme si il cherchait à atteindre quelqu'un. Et là, coupure d'image. Bon, Donc c'est voilà, les ça prend une tournure un peu glauque. Au retour, donc il y a une petite coupure et puis on reprend le fil. Et là, on voit que Orton est de retour pour finalement pour venir un peu checker comment va son prisonnier.
S'il n'est pas mort.
Manifestement, il voit que sur les écrans tout va bien, il est toujours là. Donc il vient, il tape à la porte, il n'y a rien, il ouvre et là, plus personne. Wyatt a disparu. Donc voilà, les pouvoirs de Bray Wyatt manifestement sont encore entrés en jeu et le plan de Randy Orton est tombé à l'eau.
Bah, il est où ce
donc,
con?
ouais, donc il va falloir, il faudra voir la suite maintenant dimanche. Mais en tout cas, c'était la fin de ce fil rouge pour cette semaine. Est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de cette petite interaction? Tu aimes, tu aimes pas?
Bah écoute, moi un truc qui m'aurait bien fait flipper, c'est quand il a tendu la main là, imagine qu'à ce moment-là, une main aurait surgi vraiment pour
Ah ouais.
se tendre vers
Oh.
Bray Wyatt. Je
Ça
m'attendais
aurait
à ce que.
été
Ouais.
ultra glauque, ça,
Je
franchement, ça
m'attendais à
aurait
ce
été
qu'il se
vraiment bien
passe,
ça.
qu'il
Ouais.
se passe ça.
Ça aurait été trop stylé, ça. Ouais.
Ouais. Donc bon, effectivement, voilà, on a un truc. Voilà, ça fait image la semaine dernière. Voilà, ce combat de Game Master et
Ouais, ça fait
de Mind
miroir, ouais,
Gamer
ça.
entre les deux. Mais bon, comme je disais en début de podcast, là, il faut clôturer maintenant. Il faut que ça se passe sur le ring. Donc là, on tente des choses, hein, c'est original. Mais maintenant, il faut amener la rivalité sur le ring pour qu'elle puisse continuer. Parce qu'on va pas pouvoir faire plusieurs semaines comme ça, hein, ça c'est sûr.
Non. Non, c'est ça. Il faut passer dans le ring maintenant. Donc, il n'y aura pas de bullshit à nos merci. Je pense que là, ils n'auront pas le choix. Le
Ah
match
oui.
aura lieu.
Ah non, pas comme il y a 4 semaines là, il faut
Non,
faire
non,
le
non, non.
match, hein.
Le match aura lieu. Mais bon, voilà. Bon, encore une fois, on est client ou pas. Ils ont tenté un truc, on va dire, de sortir un peu des sentiers battus pour cette rivalité, de tenter un truc un peu original. Ça plaît pas. Moi, je dois avouer que ça me change un peu. C'est pas mal. Puis ça, au final, ça leur évite d'avoir trop d'interactions dans le ring. Vu comment ils ont du mal à gérer le personnage de Bray Wyatt dans le ring, c'est peut-être pas plus mal. Donc pourquoi pas. On a également eu dans la foulée un petit package vidéo de Kurt Hawkins qui nous annonce que ça y
Ah.
est, il va faire ses débuts à No Mercy. Donc nous aurons également ça à nous mettre sous la dent à No Mercy. Bon. J'ai un peu peur. J'espère que ce sera au pré-show, mais bon, c'est pas
Oui,
sûr.
espérons.
Espérons, espérons. On enchaîne avec un match entre le Baron Corbin et Jack Swagger, mais un match qui ne vient pas de nulle part, ce match, puisque en début d'émission, on n'en a pas parlé, mais en début d'émission, ils ont eu une petite altercation en coulisses. Le Baron qui se baladait tranquille, il se fait alpaguer par la petite Charlie Caruso qui l'interviewe, qui lui dit, voilà, hein, qu'est-ce que vous pensez des altercations que vous avez avec Jack Swagger, là, récemment hein? Et le baron, lui, s'en fout de Jack Swagger. Il dit, écoute, Jack Swagger, il vient d'arriver. Il n'a pas intérêt à faire trop de vagues, parce que s'il fait trop de vagues, moi, je l'attrape, je le déboîte sur place, et on n'en parle plus. Forcément, qu'est-ce qui se passe? La caméra se tourne, et là, Jack Swagger est là, il a tout entendu. Il arrive avec son grand ternier là, donc bagarre de regard vitreux, il se toise, et Jack Swagger qui lui dit, écoute, si t'es si sûr de toi, moi je vais aller voir Daniel Bryan et puis je vais lui demander qu'on règle ça dans le ring et puis on va voir si tu me défonces là maintenant tout de suite. Et il se trouve que manifestement Daniel Bryan était d'accord puisque les voilà dans un match les deux, donc. Un match qui commence sur de la baston, on va dire, à toi à moi, avec des shoulder tackles, là, des gros coups d'épaule, des coups de la corde à linge. C'est assez violent, tellement que d'ailleurs l'arbitre tente de les séparer, et c'est à ce moment-là que Corbin, en bon heel, met un cheap shot et prend l'avantage. Et donc là, s'ensuit une longue période de domination méthodique très lente, très très lente, donc dans. Un style que manifestement le Baron Corbin veut installer, hein, voilà, de domination lente, méticuleuse, badass et tout. Bon, si tant est que bon, il n'y a pas vraiment de move mémorable, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Il n'y avait pas grand-chose à dire. On passe au finish où Jack Swagger se rebiffe dans son comeback. Tente voilà après deux trois cordes à linge tente de placer sa Swagger Bomb, elle est contrée par le Baron Corbin, mais Swagger arrive à placer son ankle lock Et là, souffrance terrible sur le visage de Corbin, qui est manifestement capable d'émotion. Il tente plusieurs fois, deux fois, de se traîner vers les cordes, mais à chaque fois, il est retraîné au centre du ring. Troisième tentative, Corbin qui essaye, voilà, de tirer sa grosse carcasse vers les cordes, et dans le process, on va dire, en essayant d'attraper le sol un peu pour se tirer, fait un petit peu un mouvement qui pourrait s'apparenter au fait qu'il tape par terre. Et d'ailleurs, c'est ce que comprend l'arbitre, puisqu'il sonne la cloche et Jack Swagger est déclaré vainqueur sur soumission. Ce sur quoi d'ailleurs il court hors du ring pour célébrer tout de suite, tel un vainqueur tout fier de lui. Et voilà, on a un match quand même de 8 minutes et demie qui était assez long. Victoire de Jack Swagger. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, IRM?
Ah là, 8 minutes et demie, c'est pas... déjà que c'était pas terrible, en plus, effectivement, visiblement, c'était long. Bah écoute, c'était quand même globalement mauvais, hein, tout ça. Alors on va passer hein, l'amateurisme latent de certains arbitres,
Ouais, il va
visiblement à
falloir qu'ils arrêtent,
WWE,
hein.
qui n'arrivent pas à déceler un vrai... Que tu vois que des fois, ils hésitent pendant des heures avant de vraiment de voir de signaler l'abandon. Bon, toujours est-il que Jack Swagger, là, c'est pas possible. Jack Swagger, là, il a droit à un dernier run, visiblement, on lui donne une dernière chance, mais il est même pas foutu d'en faire quelque chose, hein, parce que...
Ah,
Alors,
c'est ça.
il nous avait annoncé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que vous allez voir le nouveau Jack. Donc, il était venu avec sa casquette à l'envers, tout en noir et tout. Et le mec qui c'est qui débarque, bah, c'est Jack Swagger avec son
C'est le
t-shirt,
même.
son With the People, le même style de catch. Il a absolument rien changé, donc ça n'a aucun intérêt. Le public, forcément, bah, il embarque pas. Enfin, comment veux-tu embarquer derrière un mec qui dit qu'il a changé et en fait il fait la même chose? Donc voilà, après Baron Corbin, voilà, moi j'ai un peu plus de. Voilà, comment dire, un peu plus d'empathie ou d'intérêt pour ce personnage parce que le mec vient d'arriver et contrairement à Swagger, il a le futur devant lui pour la WWE en tout cas. Donc comme tu dis, voilà, il a essayé d'instaurer un style de catch voilà, assez lent et méthodique. Donc voilà, c'est un peu plus encourageant si je puis dire dans cette daube qu'ils nous ont proposée. Mais c'est pas très très glorieux quand même. Hein.
Non, mais c'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Enfin, le carton rouge, moi, je le donne surtout à Jack Swagger, parce que, enfin, ou en tout cas aux bookers qui sont derrière cette idée de Jack Swagger, parce que on nous parle d'un reboot, on nous parle d'un nouveau Jack Swagger qui profite du changement de brand pour se réinventer. Et en fait, non, c'est le même.
Que
Et
dalle.
puis, on passera sur son jeu d'acteur douteux aussi, ce qui fait vraiment une bataille de carpe là en promo.
Ah
C'est
oui.
assez terrible. Alors, ouais, moi c'est vrai que j'avais bien aimé le finish parce que je le trouvais plutôt original, mais en même temps, parce que il était pas si mal exécuté. Mais c'est
Non,
vrai
c'est
que,
vrai.
mais c'est vrai que bon, et puis voilà, ça accouchera sûrement d'un rematch dimanche en pré-show. On sait pas si c'est pas officiel encore, ou je sais pas si c'est officiel, mais du coup, toujours est-il que c'était pas con, mais c'est vrai que
Mais il faut être derrière les catcheurs pour que ça marche, ce genre de
bah ouais,
finish.
et puis c'est vrai que t'as raison dans ton commentaire, on boucle un petit peu trop l'incompétence des arbitres ces derniers temps. On en avait parlé à Clash of Champions avec Raphaël aussi. C'est pas rendre service à la crédibilité des matchs de faire de ce genre de trucs, quoi. Mais bon, c'est pas folichon folichon, on va dire. Écoute, on enchaîne, et puis on enchaîne avec le main event. Le main event
Ah.
qui ce soir est une promo à trois, face versus face, non, c'est face to face to face, comme ils ont dit. Promo à trois des trois protagonistes du triple threat pour le World Championship: AJ Styles, John Cena et Dean Ambrose. Et donc c'est AJ Styles qui ouvre le bal, qui arrive dans le ring le premier. AJ Styles, donc, il nous dit que SmackDown est une terre d'opportunités, comme le dit souvent Shane et Daniel Bryan. Et il est d'accord avec ça, puisque on lui avait donné l'opportunité de beat up John Cena à SummerSlam pour devenir the face who runs the place. Il l'a fait. On lui avait donné l'opportunité de devenir champion du monde en battant Dean Ambrose à Backlash. Il l'a fait. Et maintenant, aujourd'hui, on lui donne une nouvelle opportunité, celle de battre les deux hommes le même soir et d'asseoir définitivement sa domination sur SmackDown. Et il compte bien le faire. Donc déjà, rien que pour ça, moi, ça m'a fait plaisir de voir un champion heel un peu sûr de lui et pas chouineur, hein, parce qu'on a trop souvent ça. Donc là, c'est quand même voir un mec content d'avoir un triple threat, ça fait plaisir. Mais c'est là-dessus que Dean Ambrose arrive, sa musique retentit. Il arrive, Tout feu, tout flamme, là, il est surexcité dans son style habituel, là, où il balance ses phrases et puis il tourne un peu, il va de droite à gauche, puis il continue à parler, là, il est surexcité. Il a quelques petites blagues, hein, il traite AJ Styles de chump, en opposant ça au terme de champ, parce que voilà, AJ Styles, il a été champion du monde partout, il a réussi partout où il allait, et maintenant qu'il arrive enfin dans les big leagues, à la WWE, il utilise la low road, quoi. Il prend le chemin de traverse pour devenir champion, en lui mettant un coup dans les valseuses, là, on s'en souvient, un backlash pour gagner le titre. Donc c'est pas vraiment ce que j'appelle un champ, donc voilà. Et puis Ambrose, il est aussi super vénère parce que la semaine dernière, AJ Styles, il l'avait battu au centre du ring pour un compte de 27, hein. Il l'avait battu pour un compte de 27 pendant que l'arbitre était KO, avant que John Cena intervienne et se mêle encore de ce qu'il ne regardait pas. Évidemment, on parle de John Cena, donc qu'est-ce qui se passe?
Roman Reigns arrive.
John Cena arrive sous les vivas d'une foule en délire, et de moi, évidemment. Donc John Cena arrive, il arrive sur le ring, et là, il porte le micro à sa bouche, et AJ Styles arrive et fait « Shut up, John !» Il le coupe avant même que John Cena puisse commencer à parler. Donc, bon, là, ça, moi, déjà, je commence à bouillir un peu, là. Et donc, AJ Styles, il dit tout de suite « Non, non, mais écoute, John, tu arrêtes de nous faire chier, tu la fermes pour une fois, on sait exactement ce que tu vas dire, tu vas encore dire que tu vas gagner le titre, tu vas surmonter les difficultés, tu vas pouvoir comme ça battre le record de Ric Flair, tu vas pouvoir rentrer dans l'histoire et patati et patata, et donc alors que pourtant tu devrais avoir honte de te comparer à une légende comme Ric Flair. Donc c'était assez surprenant venant de AJ Styles de dire ça, mais c'était marrant de le voir sortir cet argument-là et dire ah, tu seras, et puis même si tu gagnais dimanche, tu seras jamais dans la conversation, dans la même conversation que celle qui comprend Ric Flair. C'est Ric Flair, c'est une légende, tu seras jamais à son niveau. Et d'ailleurs, il en profite pour lui lâcher la punchline de la soirée, hein, parce que AJ Styles lui dit d'ailleurs, toi tu vois, tu cours après l'histoire, mais moi je fais l'histoire.
Ooh.
You chase history, I make history. Donc là, boom. John Cena, ok, il est pas content, c'est le moment de la grande réponse. Il prend son micro, il se prépare à parler, et là, c'est Dean Ambrose qui l'interrompt. Il fait, non, Cena, tu la fermes, on sait exactement. Donc lui aussi, il sait ce que Cena va dire, c'est bien, tout le monde sait ce que Cena va dire. Et donc Dean Ambrose qui fait, non, mais c'est bon. Ferme-la, je sais exactement toi aussi ce que tu vas dire, tu vas encore me dire que tu vas pas accepter ton erreur de la semaine dernière, tu vas pas accepter ta responsabilité d'être intervenu dans le match, parce que de toute façon c'est jamais de ta faute, toi tu passes ton temps à jouer tu passes ton temps à jouer le jeu des politiques en coulisses, t'es ami avec les bonnes personnes, tu t'es tout le temps en train de tirer les ficelles en coulisses, et de toute façon je sais très bien que tu m'as jamais aimé. Donc là, il parle de lui, il dit « t'as jamais aimé Dean Ambrose, parce que Dean Ambrose, lui, c'est il joue pas selon tes règles, il vient pas te lécher les bottes en coulisses, il vient pas te demander des conseils comme le font tous les autres catcheurs dans les vestiaires, donc ça te plaît pas. Donc forcément, tu me mets des bâtons dans les roues depuis que je suis arrivé, tu m'aimes pas. Et puis quand tu dis que de toute façon, t'es le premier arrivé, le dernier parti, que t'es une machine de boulot et tout, c'est pas vrai, moi je suis bien bien au-dessus de toi là-dessus, tu m'auras pas là-dessus. » J'ai pris zéro jour de congé, j'ai jamais été blessé une seule fois depuis que je suis arrivé, j'ai fait plus de matchs que n'importe qui d'autre dans le roster l'année dernière et l'année encore d'avant, donc depuis 2 ans, donc tu viendras pas m'avoir là-dessus, surtout que toi pendant ce temps-là tu prenais tes petits jets privés et t'allais dans les célébrations, les Emmy Awards, là, les trucs les machins pour recevoir des trophées de show télé et compagnie. Donc voilà, il fait encore écho à sa cinglante réplique de Lazy Part-Timer de la semaine dernière. Donc du coup une promo assez costaud, hein, de Dean Ambrose, et puis qui conclut en disant, donc voilà, toi John, continue à faire tes petits jeux en coulisses, être pote avec les bonnes personnes et à faire ton mariole dans le ring. Moi je vais continuer d'être Dean Ambrose, d'être moi-même, et puis toi tu pourras continuer, John, à jouer John Cena à la télé et à continuer à manipuler en coulisses et tout machin. Donc ambiance, ambiance dans le ring. On est encore une fois la frontière entre le shoot et la promo est fine. Et là, on sent que la tension est à son comble. Et donc John Cena prend enfin le micro. Sauf que manifestement, il est plus d'humeur. Il est plus d'humeur à la discussion. Il dit juste talk is cheap, donc les paroles c'est pour les faibles. Et là, il se rue sur Dean Ambrose, mandale sur Dean Ambrose, il balance AJ Styles par-dessus la troisième corde, attitude adjustment sur Dean Ambrose, il attrape la ceinture, la musique retentit, the champ is here, John Cena est triomphant sur le turnbuckle. Ouais, sauf que non, malheureusement, c'est pas terminé, malheureusement pour moi, puisque AJ Styles revient, AJ Styles prend l'élan sur les cordes, phenomenal forearm, il ramasse sa ceinture. Et là, c'est la musique d'AJ Styles qui retentit. Il sort du ring avec sa démarche triomphante. Il s'apprête à partir. Sauf que non, ce n'est toujours pas fini, puisque là, c'est Dean Ambrose qui se relève, encore un petit peu hébété, mais il se relève. Il court après AJ Styles. Dirty Deeds sur la rampe en acier. Dirty Deeds, la tête d'AJ Styles qui claque sur le sol. Complètement KO, le champion. Et là, c'est Dean Ambrose qui ramasse la ceinture. Cette fois, c'est fini. Tout le monde est par terre. Dean Ambrose est debout. Dean Ambrose triomphe. La musique retentit. L'émission est terminée. Sur ce segment ultra intense. Voilà, la suite maintenant, le triple threat dimanche, IRM, qu'as-tu pensé de tout ça?
Waouh, ouais, gros segment là pour builder cette rivalité à 3. Les trois justement vraiment tous bien tiré parti de leur séquence, de leur on va dire de leur monologue hein, qu'ils ont, si je peux dire, parce qu'au moins deux
Oui, c'est
sur
ça.
trois.
Oui.
Et comme tu l'as dit au début, et Jestals qui se pose comme un champion en tout cas dans cette rivalité-là, dans ce segment-là, qui n'est pas un pleutre qui va courir dans
C'est
les
ça,
jupes
ça
de
fait plaisir.
l'autorité à chaque fois qu'on lui dit, eh mec, tu vas défendre ton titre au prochain
Oh non!
pay-per-view. Oh non, comment ça, je vais devoir défendre mon titre, je suis le champion, je vais pas défendre mon titre. Moins on a ce genre de heel, mieux on se portera, parce que voilà, quand tu regardes un film de super-héros, t'as envie que le face il se batte contre un méchant
C'est vrai.
qui est méchant, qui a des mauvaises intentions et qui assume et qui va jusqu'au bout. Bon, des
Qui est
fois,
dangereux, quoi.
qui est dangereux, ouais. Bon, à des fois, à la fin, ils font volte-face, mais jusqu'au bout, ils
Ah
auraient
oui.
été dangereux et ils veulent pas échapper le combat. Donc ça, c'était bien. Et Dean Ambrose, ouais, Dean Ambrose, super, hein, vraiment. Voilà, moi, Dean Ambrose, j'ai eu beaucoup de mal ces derniers mois parce que il était trop téléguidé et ça lui allait pas. C'était lui qui était un peu lazy, justement. Et là, par contre, on sent que, alors je ne sais pas, il est peut-être moins drivé, il a peut-être plus d'espace pour s'exprimer. Et puis il a plus la ceinture. Alors je ne sais pas si c'est un mal pour un bien,
Ouais, je sais pas. Mais là, on sent,
mais
il est en freestyle et ça lui va bien, quoi.
ouais, gros freestyle, grosse intensité, vraiment à l'aise. Peut-être un peu trop parce que le mec il débotte à une vitesse pas possible.
C'est vrai qu'il
Hein.
parle très très vite quand même, ouais,
Faut que,
peut-être trop, hein.
ouais, faut qu'il travaille un peu ses temps de pause, faire réagir le public, etc. Mais bon, je pense qu'il était tellement à fond qu'il n'a pas trop calculé. Et puis John Cena, alors là, il m'a bien surpris. Je m'attendais vraiment à ce que bah, il les enterre tous les deux,
Ouais, qu'il fasse du John Cena, quoi.
comme il le fait si bien. Après tout, ils lui ont dit, on sait ce que tu vas dire. Et bah, du coup, on
Ouais.
s'attendait à qu'est-ce qu'il va dire, John Cena? Bah rien, un gros coup,
Rien.
grosse patate dans ta tronche. Donc moi, j'ai bien kiffé ce côté, voilà, John Cena qui fait, allez, bon, on a assez
Ouais, fini
parlé.
la rigolade, c'est bon.
On tabasse. Et puis pas mal aussi la petite séquence à la fin où les trois s'enchaînent pour savoir qui va clôturer le show.
Ah,
Et
c'était plutôt bien fait.
finalement, que ce soit Dean Ambrose, bah, c'est plutôt cool pour lui, voilà.
Ouais, si, c'est bien, parce que du coup, Cena avait fini triomphant la semaine dernière. Avant, c'était AJ Styles, donc
Ah bon,
là,
bah
ils ont
voilà, donc
tous
un
eu. La
partout.
boucle est bouclée, un partout, partout.
Donc ouais, c'est du super boulot pour les trois là. Le match est bien hypé là pour le pay-per-view.
C'est ça, le match est bien, bien hypé. Ouais, bah, ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis là, on continue de voir des petites prémices de ce que pourrait être une feud entre John Cena et Dean Ambrose. Et moi, personnellement,
Oui, c'est
j'en
vrai.
salive d'avance. Bah écoute, on a fait le tour de cette émission, on a fait le tour, donc bah écoute, je te propose de passer au mot de la fin, ta note, ton top, ton flop, c'est parti.
Alors, ma note, je vais être un peu plus sévère que la semaine dernière. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs là qui collaient pas terrible dans cet épisode. Du coup, là, je vais mettre 3,5.
Ah, c'est ma note.
Esprit connecté. Donc ouais, 3,5, ouais, moi ça me paraît pas mal. Mon top ce serait ben justement bah, ce dont je viens de parler à l'instant, le moment où John Cena bah, met une grosse patate au lieu de poser une réplique, une punchline, il met juste un punch au lieu de mettre une punchline. Ça m'a bien surpris et du coup ça m'a bien
Bah,
maintenu
ça a
à
surpris
fond.
Dean Ambrose aussi,
Ah
apparemment.
oui, c'est vrai, ça a surpris pas mal de monde, donc bah voilà, job done. Et en flop, bah, Jack Swagger, quoi. C'est pas possible, hein.
Ouais,
C'est pas
il
possible.
mérite un carton rouge, lui,
À
ouais.
Jackie, là, on te donne une chance comme ça, c'est bon. Je pense que c'est ta dernière, là. Il faut la
Ouais.
saisir. Tu peux pas ne rien faire. Là, le mec, il ne fait juste rien. Il subit le truc.
You don't know Jack, bah si si on
Ouais,
si si on connaît Jack en fait.
En tout cas, s'il y a un autre Jack, je crois qu'on le connaîtra jamais, malheureusement.
Ouais,
Donc, ça, c'est
c'est
quand même
ça.
mon flop, hein.
Bon, bah écoute, moi je mets 3,5 aussi, donc un peu en retrait des autres émissions, même si je trouve que c'était un bon go home show parce que on a été bien hypé sur tous les matchs, mais il a peut-être paru un petit peu moins bien ficelé que les autres SmackDown. Il y avait des choses un peu moins intéressantes, moins bien exécutées. Donc voilà, 3,5, mais ça reste quand même une bonne émission. Mon top, moi, ça va être le Dolph Humentary, là. C'était exceptionnel, il faut
Ah
absolument que vous
oui.
regardiez ça. Puis de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, je fais confiance à la WWE pour nous le remettre en pré-show dimanche ou pendant l'émission avant le match. Hein. Je pense que ça devrait arriver. Et mon flop, ça va être la défaite de Bray Wyatt par décompte à l'extérieur. Je trouve que c'est une erreur de booking. Ils avaient l'occasion de donner une petite victoire dans le ring avant le pay-per-view à Bray Wyatt et ils ont préféré donner un 2-0 à Kane. C'est pas normal, je trouve.
Non, c'est vrai qu'il aurait besoin d'une bonne de quelques victoires quand même, hein.
C'est ça. Avant de faire les différentes promos à droite à gauche, je te propose qu'on récapitule la carte
Ah oui.
pour dimanche, la carte de nos merci. Donc,
Miam miam.
la carte officielle aujourd'hui. Donc, nous avons un Jack Swagger contre
Bar le
Baron
baron.
Corbin. Hein, donc, normalement, ce sera du pré-show.
Oh oui.
Peut-être qu'on aura aussi en pré-show les Hype Bros contre The Ascension, vu ce qui s'est passé cette semaine, mais bon. Rien d'officiel pour le moment. Nous avons ensuite sur la carte principale Nikki Bella contre Carmella, Randy Orton contre Bray Wyatt, les titres par équipe de Beauty and the Beast, Heath Slater et Rhyno contre The Uso, le titre féminin de Becky Lynch qui sera défendu contre Alexa Bliss. Là, le show stealer de la soirée, le Miz, défendra son titre intercontinental contre la carrière de Dolph Ziggler. Et le triple threat, qui sera probablement main event du coup. Pour le WWE Championship, AJ Styles contre John Cena contre Dean Ambrose, un sacré programme.
Ouais, c'est pas dégueu.
Et les débuts de Kurt Hawkins, mais bon, bon. Ça, on verra. Bon, bah voilà, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aller bien vous inscrire si ce n'est pas déjà fait sur notre chaîne YouTube ou sur PodCloud. Sur aussi notre chaîne PodCloud pour recevoir toutes les notifications dès que les nouveaux shows sortent, les hors-séries, tout ça. Peut-être que pour nos merci, vous aurez une émission spéciale la semaine prochaine, mais ça, vous ne le saurez que si vous êtes inscrit. Mettez des likes, des étoiles, des commentaires. Voilà, dites-nous, faites-nous part de vos commentaires aussi. Si vous en avez, si vous êtes inscrit sur les Cahiers du Catch, vous pouvez nous retrouver. Cahiers du Catch, également l'endroit où vous pouvez noter le pay-per-view à venir sur le gauchomètre de IRM, allez le faire si ce n'est pas encore fait, c'est toujours ouvert. Et puis bah voilà, on a fait le tour.
Eh ben oui.
On a fait le tour, donc bah écoute, merci IRM.
Ah, merci à toi d'avoir tenu les rênes aussi bien. T'as fait du bon boulot.
C'est gentil.
Well done.
Merci. Et puis bah du coup, je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une bonne fin de semaine de catch et surtout un excellent week-end avec nos merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de tout ça. Allez, à bientôt tout le monde.
Salut! Bon, t'as retrouvé ton résumé, tes
Non,
récaps?
j'ai pas retrouvé parce que la salle dans laquelle j'étais est occupée, donc je me voyais pas trop rentrer et demander à prendre la poubelle.
Avec son rouleau de scotch.
Non, mais puis en plus c'était imprimé en recto verso, donc
Ah,
même,
putain.
enfin, j'aurais pas pu reconstituer, c'était pas possible.